Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Il ferme la porte. Il tombe sur l'hôtesse qui lui dit « Je vais vous raccompagner, madame. » Et elle suit l'hôtesse qui la raccompagne jusqu'à la sortie du siège. Une fois dehors, elle est toute abasourdie de tant de cérémonial. Devant la porte du cierge, le concierge habillé en rouge lui demande « Vous désirez un taxi ?» Elle lui dit « Non, merci. » Elle va vers sa voiture. Elle se demande si elle n'a pas mis les pieds un peu trop haut. Les francs blancs, c'est tout de même quelque chose. Et elle a coté pas grand-chose. Pourtant, elle a besoin d'eux pour ce projet un peu fou. Les Japonais ne veulent pas en entendre parler. Ils refusent de s'associer avec elle. Eux, ils préfèrent les petites choses, les petits écrans. Puis ils se méfient des idées françaises. Pour eux, le français est un original un peu foufou, pas très sérieux. Elle entre dans sa voiture et la met en route pour rentrer chez elle. Dans la soirée, elle réfléchit à son bureau, chez elle. Elle se dit que pour réussir, qu'elle doit réussir pour ce projet, que ce doit être le projet du siècle. Et bien entendu, mettre le dossier à l'abri de tout. Elle deviendra la femme la plus riche de France et peut-être plus. Et se dit que ses ancêtres n'ont pas fait fortune dans le groupe, mais elle, oui, elle fera fortune. Elle se dit aussi que c'est dommage que Gilbert soit si jeune. Il est beau, mais trop jeune. Mais très beau, garçon. Oui, mais trop jeune. Il faut de toute façon que je fasse affaire avec lui. Il est le seul à pouvoir m'aider. Le téléphone sonne. Elle décroche.
C'est moi, Pierre. Elle lui dit, « Ah, c'est toi, Pierre ?»
Elle se souvient que Gilbert avait parlé des banches. Peut-être que ça risque de nuire à l'affaire. Puis, elle se dit que peut-être ça peut aider. Oui, elle se souvient qu'au cours de la conversation, il avait parlé des ricains et des barches. Malheureusement pour les ricains, il ne peut compter sur la famille, puisqu'il ne reste personne. Enfin, elle le croit. Mais les barches, il y a Pierre.
Si Pierre et elle se fiancent, ça peut donner un coup de pouce. Et puis, ne désire-t-elle pas épouser Pierre? Alors, en même temps, elle fait une bonne affaire.
Pierre se demande à quoi elle pense. Il interrompt le silence en lui demandant timidement.
On peut se voir,
si tu veux. Elle lui dit, oui, je veux bien. Il est surpris, s'attendait à ce qu'elle leur envoie. Là, il ne sait plus que dire. Elle lui dit,
nous nous voyons où?
Il lui dit, chez toi.
Elle lui dit, non, c'est impossible, ça ne se fait pas.
Il lui demande, mais pourquoi? Elle lui dit, parce qu'idiot, un fiancé ne va pas chez sa fiancée, surtout si elle vit seule.
Il est heureux. Elle lui dit, alors tu acceptes?
Elle lui dit, mais bien sûr, j'ai jamais refusé ta main.
Mais c'était impossible puisque tu étais marié. Réfléchis un peu.
Il lui dit, oui, bien sûr, je t'aime.
Moi aussi, nous voyons où?
Il lui dit, au restaurant La Coupole, ce soir, devant le restaurant à 21h. Elle lui dit,
d'accord, alors à ce soir.
Et elle raccroche. Elle se dit, il faut faire vite pour le contrat de coopération avec Franblanc. Lui est tout heureux. Et sort du bureau.
Il rencontre son père qui lui demande « Qu'est-ce que tu as? Tu as reçu une bonne nouvelle ?»
Pierre lui dit « Oui, Carole accepte de se marier avec moi. »
Auguste lui dit « C'est très bien ça, mais un peu tôt. »
Pierre lui dit « Nous voyons ce soir. »
Le père se dit « Qu'elle y va vite en la besogne. » Et le soir, à 21h, il retrouve Carole devant l'entrée du restaurant La Coupole. Elle porte une robe blanche, très moulante. Il lui dit, tu es magnifique. Elle lui dit, je suis presque fiancée, c'est pour toi. Et ils entrent dans le restaurant. Un maître d'hôtel vient à eux et demande « Désirez, messieurs, dames ?» Il lui dit « J'ai réservé une place au nom de Barsch. » Le maître d'hôtel regarde son écran et voit le nom. Il lui dit « Oui, vous voulez bien me suivre ?» Il les mène à une table et les fait asseoir l'un face de l'autre. Il fait signe à un serveur pour leur donner la carte. Après avoir choisi les plats et vins, Pierre lui dit « Je suis tellement surpris de ce que tu m'as dit que je ne sais plus où j'en suis. Nous marions quand ?» Elle lui dit « Il faut d'abord se fiancer, après nous verrons. Ne volatilisons, ne brusquons pas les étapes. » Il lui dit « J'ai tellement envie d'être avec toi. » Elle lui dit « Mais tu l'es avec moi, tu connais bien la maison Franblanc ?» Il lui dit « Oui, je suis même en affaire avec eux, et un de mes fils, même mes deux fils, pour ainsi dire, sont amis du président. » Il l'a hébergé chez sa mère après l'enterrement. Elle fait « Ah !» Il lui demande « Les Franblancs t'intéressent ?» Elle lui dit « Oui, j'ai besoin d'aide pour un projet, mais nous ferons des affaires qu'après. Il faut d'abord que l'on soit fiancé. » Et puis, il faudrait tâcher d'être ami avec eux. Mais quand nous nous marions, le mariage pourrait peut-être nous aider. Parce que ta famille pourra m'aider. Moi, je n'ai plus de famille. Et il dit, tu en as une maintenant. Elle lui répond, merci. Les affaires, même celles de sa femme, ne l'intéressent pas aujourd'hui. Il lui demande, quand nous serons mariés, nous habiterons chez toi. Elle lui dit, je crois que j'aimerais mieux c'est garder mon appartement pour un pied à terre. C'est-à-dire, lorsque j'aurai des affaires, c'est mieux que de vivre chez toi. Enfin, que de traiter les affaires chez toi, ce serait gênant, quoi. Il lui dit, comme tu voudras. Pourtant, nous avons de la place. Et il pense à ses parents. Il se dit que ça risque de ne pas être facile. Il risque d'agir comme pour Antoinette et ses fils. puis, après le repas, ils sortent du restaurant. La raccompagne en voiture jusqu'à chez elle. Elle lui dit: merci pour le délicieux repas. L'embrasse sur le front. Et s'apprête à partir. Il lui demande: tu me dis pas de monter? Elle lui dit: non, ça ne se fait pas. Tu es fiancée maintenant. Il soupire. Elle lui dit: pas avant le mariage. Et elle sort de voiture. Il la regarde entrer chez elle et met sa voiture en route. Il est agacé. Il se dit: elle joue à la fille vierge maintenant, avec tout ce qui s'est passé entre nous. Elle se refait une virginité, que les femmes sont bêtes. Arrivé chez ses parents, il les retrouve au salon en train de lire. Il va au bar se servir un bourbon. Son père lui dit: tu rentres bientôt? Pierre lui dit: oui. Amélie lui demande: ça s'est mal passé? Pierre lui dit, agacé: non, elle se fait une nouvelle virginité. Amélie, outrée, lui dit: on ne parle pas de ces choses-là à sa mère. Je n'ai pas à savoir si elle l'est ou non. Pierre lui dit: eh bien maintenant tu le sais. Auguste lui dit: c'est bon signe. C'est qu'elle est sérieuse et veut faire les choses comme il faut. Pierre soupire. Amélie demande: de quoi avez-vous parlé? Pierre lui dit: où on va loger? Son père lui dit: ne te fais pas de soucis, chez Franblanc. On trouvera facilement un logement. Pierre lui dit: on a déjà trouvé un. Amélie demande: déjà? Lequel? Où? Pierre lui dit pour l'embêter: chez toi. Amélie lui dit: mais c'est impossible. Pierre lui dit: et pourquoi? Nous avons suffisamment de pièces, et puis Antoinette a laissé sa chambre. » Amélie lui dit, « Et tes enfants, hein ?» Pierre lui dit, « Ils sont grands, et puis, on peut les envoyer au château. » Auguste lui dit, « Oui, peut-être, nous verrons. Vous avez décidé de vous marier quand ?» Pierre lui dit, « Elle dit les fiançailles d'abord. » Amélie lui dit, « Elle a raison, cette fille. Elle a de la jugeote. Pas les choses en même temps. Pas tout à la fois. » Auguste la regarde et lui demande, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle hausse ses épaules. Pierre lui dit, « Bon, eh bien moi, je vais me coucher. » Et il les quitte. Amélie dit à son mari, « Puisqu'il va se fiancer, il faut l'éloigner les enfants pour qu'ils soient plus libres. » Le lendemain matin, Amélie téléphone au château pour prévenir que les enfants ont passé quelque temps là-bas. Puis elle écrit au directeur du lycée pour le prévenir qu'Éric et Frédéric n'iront pas au cours à cause de tout ça. Pierre, tout excité et heureux, comme un fiancé, téléphone plusieurs fois par jour à sa fiancée Carole. Elle commence à le trouver un peu collant. Elle a réussi à finir son dossier et le présente à Gilbert. Gilbert lui dit, « Vous êtes une vraie femme d'affaires et sûre de vous. La vie vous sourit. » Elle lui dit, « Oui, et je suis fiancée à Pierre Bosch. » Il lui fait, « Ah, félicitations !» Elle lui dit, « Merci !» Un matin, pendant le petit déjeuner que la famille prend au salon, Amélie dit, « J'ai décidé, c'est qu'Éric et Frédéric fassent un petit séjour au château. » Éric est surpris, il demande, « Pourquoi ?» Amélie lui dit, « Parce que ton père va être très pris. » Éric lui dit, « Mes pères ne s'occupent pas de nous, ça ne change rien. » Elle lui dit, « C'est comme ça, j'ai tout préparé. Vous partez cet après-midi. » Frédéric demande, « Et le lycée ?» Elle lui dit, « J'ai tout prévu. J'ai prévenu ton lycée. Ne te fais pas de soucis. Et puis, tu es en avance pour ton âge. Ça n'a pas d'importance. » Frédéric boude. Il se dit qu'il va être obligé de rattraper le temps perdu et ça va lui donner des surcharges de travail à son retour. Il voit que son père ne dit rien. Il se moque de ses fils et se demande ce que son père a comme surcharge de travail.
Ça pue, tout le monde va nous mater.
C'est bon, le matin, Frédéric demande à ses professeurs ce qu'il aura à apprendre ces prochaines semaines, parce qu'il pourra travailler. Les professeurs lui donnent les plans de travail pour les prochaines semaines. Éric se moque de manquer les cours. et il sait qu'à la rentrée, il ne cherchera pas à rattraper le temps perdu. Si on lui fait des réflexions, il dira que c'est la faute à ses parents. D'ailleurs, il sait très bien que personne ne lui demandera quoi que ce soit, parce que personne ne s'occupe de ce qu'il fait. Plus tard, il trouvera bien quelque chose à faire, un travail quelconque que son père lui trouvera. Et puis, il y a son frère, car son frère sera toujours près de lui. Qu'il se marie ou non, son frère sera près de lui parce que son frère est à lui et qu'il ne peut se passer de lui. Lorsqu'il rentre à l'appartement à midi, Amélie leur dit « Vous allez manger un bissès. Ensuite, vous partirez de suite. J'ai préparé vos bagages. Si vous voulez amener des choses supplémentaires, il faudra les préparer de suite. Allez, vite, mangez !» Et ils vont à la salle à manger en silence. Eric se dit qu'on est bien pressé de se débarrasser d'eux. Après le repas, ils sont allés dans leur chambre. Préparer ce qu'il veut prendre en plus des vêtements qui ont été déjà emballés. Frédéric prend ses livres scolaires, Eric sa raquette de tennis et une tenue de cheval. Une fois qu'ils sont prêts, on les fait partir. Leur père n'est pas là pour leur dire au revoir. Amélie et Auguste les conduisent à la voiture qu'un chauffeur conduira. Amélie les embrasse sèchement et leur dit « Soyez sages !» Auguste leur tend la main. Le ciel est bleu et il fait doux. Il y a peu de circulation dans les rues de Paris. Les transports en commun sont peu nombreux à cause du manque d'essence. On essaye de mettre en service des cars électriques, mais l'électricité, il faut bien la fabriquer avec quoi? Les centrales atomiques ont été arrêtées et démantelées. Le gouvernement a pris cette décision contre les avis du groupe Pontoise. Le gouvernement avait peur que les groupes Anard et Vert fassent des sabotages aux centrales et risquent de créer des accidents terribles. C'est ce qu'ils cherchaient
à faire pour prouver que l'énergie atomique est dangereuse. Ils ont forcé le gouvernement à fermer les centrales et à les remplacer par de l'énergie naturelle, soleil, vent, marée. Mais ces systèmes ne produisent presque rien en énergie et coûtent cher, prennent de la place en surface pour rien. On a recours au bois, au charbon. L'électricité est achetée et fabriquée par du charbon des pays de l'Est et du gaz. Et on achète aussi de l'électricité à nos pays voisins. Alors qu'avant, on était exportateur. Maintenant, on est devenu importateur et à la merci des autres. Les garçons ne parlent pas. Frédéric se demande ce qu'il va faire là-bas. Ils vont être seuls dans ce grand château au milieu de domestiques. Le chauffeur, en tant qu'homme fort, aux cheveux et moustaches noires, habillé de chauffeur, leur dit: alors, vos parents, votre père va se marier? Ils sont tous les deux surpris. Eric demande: avec qui? Le chauffeur lui dit: vous ne savez pas, avec Calrol Griquin. Belle femme. Frédéric se dit: le salaud. Sa femme a tout juste été enterrée et il pense à se marier. Eric lui dit: c'est pour ça qu'ils nous ont éloignés. Le trajet devient triste et morose. Tous deux pensent que leur père remplace leur mère avec une autre femme. Et quelle femme ! Pour eux, le ciel n'est plus bleu. L'air n'est plus doux, ou plutôt ce ciel bleu leur fait mal, parce que c'est le contraire de ce qu'ils ressentent. Arrivés en début de soirée au château. Commence à faire nuit. Le château a l'air menaçant. Sortent de voiture. Les domestiques sont là pour les recevoir. Tous moroses. C'est arrivé. Imprévu. Hors saison. Les gênes. Ils étaient bien tranquilles. Et voilà que les maîtres reviennent. Ils avaient pris leurs petites habitudes, et voilà qu'on les dérange. Se servaient dans les réserves du château, vin, légumes, du jardin, conserves, et voilà qu'ils arrivent, adieu la vie du château. Ils entrent dans le château. Les deux frères sont menés dans leur chambre. Avec leurs bagages, en silence. Frédéric, une fois dans sa chambre, se déshabille, et va à la salle de bain prendre sa douche. Puis retourne à sa chambre s'habille et décide d'aller à la tombe de sa mère, sort de sa chambre. Là, il tombe sur Frédéric, sur Eric. Où vas-tu ? Frédéric lui dit. Je suis sur la tombe de maman. Eric lui dit. Il fait nuit. Ça ne fait rien, j'y vais tout de même. Eric rentre dans sa chambre. Une fois sorti du château, il voit qu'il fait nuit. Il se dirige vers l'endroit où sa mère a été enterrée. Marche tout doucement. Il ne sait pas pourquoi, mais il pense que le trajet fait partie de la tristesse à sa mère. Se sent triste et en même temps content de pouvoir aller la voir, d'aller à elle. Il a l'impression de lui rendre visite et de faire une bonne action. Le parc est très sombre. Les arbres sont de grosses choses qui bougent et sont un peu terrifiants. On entend le bruit du vent et aussi celui de la nuit. Mais il n'a pas peur puisqu'il sait qu'il est chez lui. S'il était en dehors, parc, il aurait peut-être peur, ce ne serait pas la même chose. Il se dit que c'est bien d'aller voir sa mère la nuit comme ça. Il se sentira plus près d'elle. Enfin, il voit la tombe, la pierre plus claire que la nuit. Thank you.
approche un peu ému, voit que les domestiques n'ont pas mis de fleurs. On leur avait pourtant bien dit. Il est ému en se disant que sa mère est là, tout près de lui. C'est quoi lui dire? Il aimerait lui dire qu'il pense souvent à elle. Qu'il l'aime et qu'il est très malheureux. Qu'il veut vivre. Et quitter tout ça. Qu'il voudrait qu'elle soit près de lui. Qu'il n'y a qu'elle qu'il a aimé et que lui ne l'a pas assez aimé, mais qu'il l'aimera maintenant beaucoup, beaucoup, qu'il sera riche et intelligent, qu'il dépassera tout le monde pour qu'elle soit fière de lui. Grâce à elle, il est plus intelligent que les autres, plus fort. Il la voit toujours allongée. Il aimerait avoir un autre souvenir que celui d'une femme toujours allongée, parce que c'est indigne d'elle. Il aimerait, si elle peut faire quelque chose, où elle est, que son frère le laisse en paix. Il ne veut plus qu'il le souille. Ça le dégoûte. Ça le dégoûte tout ça. Dit qu'il n'arrive pas à lui dire ce qu'il aimerait lui dire, et sans s'en rendre compte, il le lui dit. Mais bien sûr, pas comme il le faudrait, pas avec les mots, les phrases qu'il faudrait, mais mal. Mais heureusement, l'émotion est là. L'émotion vient. Elle vient toujours lorsqu'on ne l'attend pas. Il est triste de ne pas plus ressentir d'émotion devant la tombe de sa mère. Il se dit que pourtant, il a trouvé des choses à lui dire. Mais rien ne vient. Ou c'est venu en se disant, je devrais lui dire ceci ou cela. Et sans s'en rendre compte, il a dit ce qu'il devait dire comme ça. Il reste un moment, sans rien penser. Puis, s'en retourne, triste et honteux, de n'avoir rien, ou si peu, ressenti. Arrivé au château, le domestique lui dit « Le dîner est servi, monsieur. » Et il le mène à la salle à manger. Là, il retrouve son frère. Il s'assoit en face de lui. Il lui demande « T'as trouvé la tombe ?»«
Oui. »
Eric lui dit « Si père se marie, il ne restera que nous deux. » Ça attriste Frédéric. Après le dîner, ils sont retournés dans leur chambre. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.